je continuais à écrire à tire-d'aile. Chaque manuscrit constituait une migration inconnue. Je ne savais pas où j'allais. Je découvrais l'itinéraire en chemin. Plus j'écrivais, plus j'avais l'impression de procéder à une gigantesque cartographie de l'univers aviaire. Je me laissais porter par tel ou tel vent pour découvrir les courants. Il s'agissait de ne pas se laisser piéger par des considérations ineptes telles que la signification, le message ou le symbole. Si ces trajectoires se révélaient avoir un sens un jour, je ne devais pas espérer le voir à cet instant. Peut-être d'ailleurs ne serait-ce pas à moi d'apercevoir le géoglyphe que j'étais en train de constituer. Et s'il n'y avait aucun géoglyphe, cela n'avait pas d'importance. Choisir le très long terme, c'est aussi ne pas se soucier des jugements immédiats. Mes romans sortaient annuellement et étaient plutôt bien accueillis. Les démolitions ne manquaient pas, preuve de cet accueil, on me remarquait. Je vivais le bon et le mauvais avec philosophie. Je perdis un être follement aimé. Ce fut la première mort qui me marqua. J'avais 28 ans et je ne trouvais d'autre parade que de me sentir mourir. N'était-ce pas une attitude psychopompe? Mais dans la douleur qui me taraudait, j'entendis la voix aimée. Ce n'était pas un fracas ni une certitude, mais un suintement que je décidai d'écouter. Je reconnaissais son timbre et son langage. Je répondis. Un dialogue s'installa. Ce n'était pas un compagnonnage, c'était néanmoins un accompagnement. Qui accompagnait qui? Ne pas pouvoir le déterminer me parut bon signe. De tels phénomènes, chacun les interprète à sa manière. Ce qui me frappa, ce fut la certitude de ceux qui y voyaient de l'autosuggestion. Ce n'était jamais qu'une hypothèse parmi les autres. Comment prétendre détenir la vérité en la matière? L'autosuggestion relevait à coup sûr du contentement de soi. Je savais que jamais je n'aurais pu trouver en moi de quoi me susurrer les répliques du défunt. À ceux qui les auraient attribuées à ma mémoire ou à mon imagination, j'aurais répondu qu'il fallait faire peu de cas de l'autre pour supposer que sa complexité et la subtilité de ses propos puissent être si facilement remplacées par de tels artefacts. Du reste, il ne s'agissait pas de remplacement, ni même de consolation. C'était juste la manifestation première de ce que je ne cesserai pas de constater par la suite. Entre la mort et la vie, le fossé n'a rien d'infranchissable. Cela ne me donnait pas plus de lumière sur la mort. Psychopompe n'a rien d'une mission épistémologique. Si c'est métaphysique, ça l'est par défaut. Le psychopompe n'affirme rien d'autre qu'une ignorance infinie. La plasticité de l'ignorance est le contraire d'un dogme. La pompe dans psychopompe induit une propulsion. Le psychopompe est celui pour qui la mort n'est pas la cessation du mouvement. Le mort, comme le vivant, a encore du chemin à parcourir. Il serait prétentieux de confondre le psychopompe avec un guide. Mais il n'est pas abusif de voir en lui la présence amicale qui accompagne les débuts du défunt dans son long voyage. Si l'oiseau a été pressenti par tant de cultures pour ce rôle, c'est qu'il a l'art d'être là sans encombrer. C'est une épiphanie subtile que le vol d'un oiseau. Il n'aboie ni ne mange dans votre main. Les navigateurs du passé guettaient avidement le premier oiseau qui leur signalerait le succès d'une traversée. Le psychopompe, ce n'est pas autre chose. Mon accompagnement consistait à écrire. J'avais une preuve concrète que c'était en rapport avec la mort. Quand j'écrivais mes manuscrits, même en période de canicule, ma température chutait spectaculairement. Je renouais avec le froid abyssal qui avait failli m'emporter à l'adolescence. C'est toujours le cas aujourd'hui. À l'instant même où j'écris ces lignes. Le froid est une donnée encore plus mystérieuse que la chaleur, même si l'un et l'autre sont relatifs et infinis. Pourtant, il existe un zéro absolu. Un tel point n'existe pas dans le chaud. Ce zéro absolu, moins 273 degrés, correspond à la cessation de toute forme d'agitation cellulaire. Même la mort n'est pas cela. Le froid est plus puissant que la mort. Pour avoir beaucoup éprouvé l'un et l'autre, j'observe combien l'être est fonction d'eux. En canicule, tout sature, la vitalité aussi. La saturation n'est pas un bon fonctionnement, elle induit un dégoût nauséeux. À quoi bon une fatigue physique et mentale de l'ordre de l'affaissement? Dans l'excès de froid, on découvre la profondeur de notre misère. Réduit à notre portion congrue, nous nous concentrons sur l'essentiel. Nous devenons un pur bloc de pauvreté. On peut mourir de chaud. Je n'ai pas approché cette mort, du moins pas encore. J'ai failli mourir de froid. Peut-être cette imminence contrecarrée explique-t-elle les affinités que j'ai avec le froid. Je le déteste parce que je lui ressemble. J'ai conservé des traits de lui contre lesquels je lutte. Quand Kafka dit que la littérature sert à briser la glace qui fige en nous, cela me parle trop. J'écris aussi pour que le gel ne prenne pas en moi. Paradoxe absolu puisque écrire me plonge dans un froid sans nom. Je reconstitue des conditions d'une hostilité extrême pour résoudre une énigme. Tout se passe comme si je cherchais à savoir jusqu'où je peux escorter la mort. Lorsque les températures deviennent par trop négatives, certains oiseaux émettent un chant d'une beauté déchirante. Il n'y a pas d'explication biologique à cette splendeur. La seule que les ornithologues ont donnée est celle-ci. La révélation de la beauté diminue l'angoisse due au froid. En cas de canicule, on peut tendre l'oreille. Aucun oiseau ne chante. Or, crever de chaud produit du stress. Il faut croire qu'aucune émotion esthétique ne délivre de l'anxiété caniculaire ou d'au moins qu'aucune espèce ne l'a encore trouvée. Le psychopompe travaille du côté du froid, car même si celui-ci est plus puissant que la mort, il se situe dans un hémisphère identique. Orphée, le premier humain répertorié psychopompe, créait des chants poétiques qui lui donnaient accès aux enfers. À ma manière, je me livre à des expériences de cryogénie. Psychopompe débutante, je procédais de façon intuitive à rebours du jeu de cache-tampon. Tu chauffes ou tu brûles signifiait tu te trompes. Tu refroidis? Continue, tu es dans la bonne direction. J'écrivais avec un thermomètre intérieur. Mes manuscrits, qu'ils soient publiés ou non, incorporent la mort de plus en plus. Chacun de mes textes invente sa manière de ne parler que de cela. Je n'ai pas caché ma longue préméditation liée à Soif, qui est un écrit psychopompe. Accompagner au plus près celui dont le trépas fut le destin suprême, l'escorter au moment précis de sa mort et après. Jésus aussi a pu avoir besoin d'un psychopompe. Devenir le psychopompe du Christ fut sûrement mon projet le plus ambitieux. J'avais retardé cette entreprise autant que je pouvais, consciente de la disproportion entre ma personne et le sujet. L'écrire se révéla écrasant. Il fallut descendre dans des zones de grand danger. Le verbe « descendre » s'impose par constat. J'avais la sensation physique d'une lente plongée dans des abysses intérieurs. Au fond du gouffre, je retrouvais l'ombre du mort par excellence que j'identifiais à Jésus. L'anachronisme ne posait pas problème. Mourir, c'est aussi sortir du temps. La véritable difficulté consistait à occuper ma juste place et à m'y tenir. Le psychopompe ne se confond pas avec celui qui l'accompagne. Il l'escorte au plus près sans prétendre à abolir le fossé qui sépare un individu d'un autre. L'oiseau est parfait pour ce rôle. Présence fraternelle et pudique à la fois. Je devais apprendre la manière aviaire d'aimer. L'épiphanie sans excès, le regard latéral. Le paroxysme de l'amour, c'est de se poser sur l'épaule de l'autre. Écrire cette proximité singulière m'enivra. Rilke avait raison. La vie choisit toujours la voie la plus ardue. L'exercice psychopompe me fit me sentir plus vivante que jamais. Au-delà de cette griserie, j'avais besoin d'interroger le Christ au moment crucial de son existence. Je questionnai, et il me fut répondu. Mes peurs étaient multiples et fondées. Je risquais de déranger un mort que je respectais, je risquais de perdre la raison, je risquais surtout de ne pas y arriver. Comme l'oiseau qui essaie de voler, je savais qu'il n'y aurait pas de seconde occasion. Si je chutais, il s'agirait de ne plus jamais m'envoler. Affirmer que j'écrivis ce texte en proie à la terreur sacrée ne doit rien à l'exagération. Je ne subissais pas le supplice, mais mon écriture en était à ce point proche que chaque matin, en me réveillant, je me disais « Il est temps de monter sur la croix ». Les 4 mois que dura cette expérience me saignèrent tant que je l'ai cru sans suite. Que peut-on écrire après « soif » Toute succession paraissait dérisoire. Je me trompais. L'hémorragie provoqua un appel qui renforça mon sang. À peine accouché, j'écrivais à nouveau, et rien n'est négligeable quand il s'agit de se refaire une santé. Allais-je publier « Soif » Le partager me sembla beaucoup moins grave que de l'écrire. Je le relus, et je le trouvai conforme à la musique que j'avais entendue. Il fut publié et déclencha de part et d'autre les colères prévues. Néanmoins, il suscita aussi des réactions magnifiques. Je l'apportai à mon père, le premier être à m'avoir parlé de Jésus. Il le lut et l'aima. Cette lecture compta plus que 1000 autres pour moi. Je ne savais pas à quel point ma joie se justifiait. Quelques mois plus tard, mon père mourut. C'était le début de la pandémie, je ne pus donc pas assister aux funérailles. Confiné à Paris, seul avec ma peine, je perçus très vite qu'il se produisait un phénomène singulier. À personne, je n'avais confié le caractère psychopompe de l'écriture de « Soif » et de mon écriture en général. Il faut supposer pourtant que mon père l'avait compris, car il se mit à me parler sans relâche. Cela n'avait rien à voir avec le filet de voix si ténu de mon premier mort. C'était reconnaissable entre toutes, la voix paternelle. Cet homme pudique me parlait comme il n'avait jamais parlé de son vivant. À cœur ouvert, il me tenait des propos de père idéal. Il avait été un bon père, mais toujours sur ses gardes, comme empêché par une gêne fondamentale. Celle-ci avait disparu. Il me parlait désormais d'aplomb. Les mois s'écoulèrent. La voix paternelle ne tarissait pas. J'en éprouvais un réconfort profond. L'été, je pus enfin aller en Belgique me recueillir sur sa tombe. J'eus l'impulsion de m'allonger à plat ventre sur cette pierre tombale et aussitôt je sentis l'âme de mon père m'étreindre, comme il n'eût pas osé le faire vivant, sans qu'il soit possible pour autant de douter de son identité. J'en pleurais de bonheur. L'automne venu, la voix paternelle ne cessa pas. Je commençais à me demander si c'était bon signe ce mort qui avait tant à dire à sa fille. Certes, j'en étais touchée. Au-delà de l'émotion, j'évaluais la nature de l'appel. Avec le recul temporel, l'évidence est criante. À l'époque, cela n'allait pas de soi. Mon père m'avait identifiée comme psychopompe et voulait vivre cette expérience avec moi. Je l'ai fait pour Jésus, je peux le faire pour Patrick Nothomb, pensais-je. Je débutais l'écriture par sa première rencontre avec la mort, avant ma naissance. Devenir la psychopompe de mon père s'avéra terriblement exaltant. Il ne s'agissait pas d'écrire sous sa dictée. J'écoutais ce qu'il me disait, mais j'avais à cœur de moduler la musique de sa voix. Je rédigeais la partition de son éternité. De son vivant, mon père avait écrit 2 livres autobiographiques. Prodigieux témoignages, littérarité faible parce qu'il n'omettait aucun détail. Il m'appartint de raboter cet héritage pour n'en conserver que la substantifique moelle. Qui avait besoin de qui? Dans le cas de Jésus, c'était moi l'unique nécessiteuse. Dans le cas paternel, miracle de l'équilibre parfait, j'avais besoin qu'il me parle et il avait besoin que je le parle. Quand il vivait, il adorait que je parle de lui. Depuis sa mort, il désirait que je le transforme en une langue vivante. J'avais le sentiment de jeter les bases du Patrick Nothomb sans peine, d'élucider son lexique, de déblayer sa syntaxe. Cela, il n'en eût pas été capable. Il n'avait aucune conscience de la spécificité de son idiolecte. J'avais eu une belle relation, comme on dit, avec mon père. Mais en vérité, depuis son trépas, c'était infiniment plus profond qu'une relation. C'était, par la grâce de cette écriture psychopompe, l'échange que chaque enfant rêve d'avoir avec son père, et réciproquement. Un amour sans rapport de force, un dévouement sans sacrifice, une estime sans titulature officielle. J'avais aimé mon père vivant avec politesse, en lui mentant chaque fois qu'il fallait, souvent. Désormais, l'aimer avec politesse n'impliquait plus aucun mensonge. Ce qui n'entraînait d'ailleurs, de ma part, aucune confession, tant je sentais ce père, autrefois distant, en proximité absolue. J'écrivais. Il lisait par-dessus mon épaule, et quand je me retournais pour avoir son avis, je le voyais heureux. L'amour autorise à tout se dire. Il n'y contraint pas. Mon père mort ne se livra pas à des conférences. Si je découvris tant de choses précieuses à son sujet en écrivant « Premier sang », c'est parce que l'écriture, pratiquée au degré espéré, est le plus fulgurant des moyens d'élucidation. La présence constante de mon père y contribua. Certes, mais sous forme de ce que l'on nomme le contact high. La mort a ceci de commun avec le trip, d'être une sortie du temps. La libération de cette prison entraîne des pouvoirs. Le cerveau fonctionne aussi comme une radio. Il peut être émetteur et récepteur. L'âme de mon père avait conservé ce double mode. Elle continuait d'émettre et recevait mieux que de son vivant. La nature de ses émissions étonnait. Lui, qui ne m'avait jamais parlé de George Sand, se mit à m'entretenir à son sujet avec enthousiasme. À cette époque, Sand m'indifférait. Donc cela ne pouvait pas être de l'autosuggestion. J'en étais restée à « La petite fadette », je me mis à lire « Histoire de ma vie » et je fus conquise. Écrire la voix paternelle fut psychopompe d'abord pour moi. Cela me conduisit à comprendre pourquoi mon père avait eu un tel besoin de m'engendrer. Si étrange que cela puisse paraître, je connaissais les faits et je n'avais pas saisi l'importance du lien de causalité. Il avait pourtant raconté ces circonstances dans son livre « Dans Stanleyville », que j'avais lu deux fois. C'est fou ce qu'on peut être bouché face à ce qui crève les yeux. Quand je pris conscience de devoir la vie à l'imminence contrecarrée de sa mort et au débordement d'instinct vital qui s'ensuivit, je fus bouleversée comme jamais. Je veux croire que « Premier sang » fut psychopompe également pour mon père. Si j'avais à ce point senti son désir que j'écrive ce livre, c'est qu'il demeurait sinon du non-dit, au moins un surcroît de rage de vivre qui devait s'exprimer. « Premier sang » est un livre de vie. De tout ce que j'ai écrit, c'est ce qui regorge le plus de vitalité. Je ne suis pas une championne du vitalisme, il s'en faut. C'est l'expérience psychopompe qui a rempli ce texte de cette énergie si particulière. L'excès de carburant de mon père a trouvé en moi son récepteur. C'est d'autant plus singulier que lui non plus, de son vivant, n'était pas un champion du vitalisme. Il était un héros au sens profond de ce terme. Une personne qui se distingue des autres, un être en retrait. Le contraire d'une grande gueule qui occupe le devant de la scène. Réussir sa mort dépend de nombreux facteurs. Je ne peux pas prétendre les connaître et pourtant, quand quelqu'un réussit sa mort, je le sens. Il s'agit de partir au meilleur moment, après avoir accompli ce que l'on savait être sa mission. C'était sûrement le cas de mon père. Il n'avait pas besoin de moi pour réussir sa mort, mais j'ose affirmer que j'ai contribué à faire d'elle un chef-d'œuvre. Ce qui lui manquait encore, c'était une légende. Une légende, c'est plus fondamental qu'une biographie. C'est une essence verbale. L'étymologie nous renseigne, la légende, c'est ce qu'il faut lire au sujet de quelqu'un. Et si l'on sait que l'étymologie latine de legere, lire, c'est cueillir, la légende, c'est la cueillette métaphysique. Voici les fruits de la vie de mon père. Début janvier 2021. Je suis au Pont d'Oie, assise au bureau paternel. J'écris premier sang, aux petites heures du matin. C'est fort d'être assise à son bureau et d'écrire sa légende. Le soleil n'est pas levé. La lampe m'aide à y voir. J'écris l'interrogatoire ultime de Gbenyé, le chef des rebelles qui, juste après le peloton d'exécution, vient demander à mon père s'il veut avoir un enfant supplémentaire. Réplique fabuleuse et authentique de Patrick. Cela dépendra de vous, monsieur le président. Après avoir écrit cela, je reste interdite et je pense. Et si c'était le mot de la fin? À cet instant précis, la lampe s'éteint. Stupéfaction. Je dis à haute voix. Papa, ton livre s'arrête ici. La lampe se rallume. Je vois que tu es d'accord. Je referme le cahier. Ce fut l'unique intervention directe de mon père dans l'écriture de ce livre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fut significative. L'excipit, souligné par celui qui avait vécu son excipit. J'ai apporté le manuscrit à mon éditeur, qui accepta de le publier. Dès ce moment, mon père se tut. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Je le connaissais assez pour savoir qu'il le désirait. De son vivant, quand je parlais de lui, forcément en bien, il exultait. Il avait confiance en moi, à raison. Jamais je n'outrepasserai certaines limites. Le silence paternel ne fut pas absolu. Ses interventions se firent rares et anecdotiques. Surtout, je sentais qu'il s'agissait d'un silence heureux. Je ne suis pas mieux renseignée que quiconque au sujet de la mort. Néanmoins, le calme profond de mon père, succédant après 1 an de dialogue, donna à penser quel pourrait être le grand repos si souvent évoqué. Si c'est le cas, comment ne pas se réjouir de ce long sommeil? Peut-être parce que je suis insomniaque? Je ne peux pas imaginer de meilleure hypothèse. Pour autant, rien n'est résolu. Il n'existe pas de technique psychopompe. Il n'existe pas de mode d'emploi pour la mort des êtres chers. On peut s'y préparer à condition de ne pas perdre de vue que chaque départ est radicalement différent. Le style, c'est l'homme. C'est valable aussi après le décès. Impossible d'anticiper ce que sera le comportement de tel ou tel post-mortem. Cela dépend surtout des relations que l'on entretient avec lui de son vivant. N'excluons pas les surprises. Se découvrir détesté de qui l'on se croyait apprécié, connaître la révélation d'un amour irénique, quand on ne voyait qu'une amitié facile, être foudroyé de tant d'indifférence alors que les preuves d'admiration fourmillaient. Le silence est polysémique. Il en est d'amoureux comme il en est d'hostile. Et puis, les éventuels échanges sont fonction du récepteur. Recevoir un message, cela s'apprend. J'ose croire que si je suis un bon récepteur, c'est que j'ai traversé des déserts nombreux. Ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est indispensable. Si tout le monde n'est pas candidat à la fonction de psychopompe, c'est pour une raison simple. La plupart des gens refusent. Ma mère était et est toujours au désespoir de son veuvage. Combien de fois ne lui ai-je pas suggéré d'amorcer un dialogue avec son mari tant aimé? Comme elle prétendait en être incapable, j'ai voulu l'aider. Viens, nous allons lui parler ensemble. Elle a toujours trouvé des prétextes pour se dérober. Cette attitude, je l'ai beaucoup vue. C'est même le choix majoritaire. Les morts d'un côté, les vivants de l'autre. N'est-ce pas ainsi qu'on nous apprend à vivre, à rebours parfois de nos intuitions les plus sûres? Il m'a fallu tant de temps pour prendre conscience de ma vocation psychopompe. Je ne savais pas que j'en éprouvais le désir. À 20 ans, j'ai perdu des amis précieux. il ne m'est pas venu à l'esprit de les écouter après leur mort. Sans doute est-ce pour cela que je n'ai rien entendu. L'essentiel, c'est l'émetteur. Certains défunts émettent et d'autres pas. J'espère que c'est uniquement fonction de leur désir et non d'autres facteurs moins sympathiques. Je le répète, le silence n'est pas mauvais signe. Nous l'avons tous remarqué, il y a des silences heureux. Certains morts trouvent aussitôt, si j'ose dire, l'équilibre. À nous de tendre l'oreille. La seule qui fonctionne, celle du désir, pour le cas où le défunt a quelque chose à ajouter. Avec mon père, ce fut clair comme de l'eau de roche. Parfois, ça peut être autrement ambigu. Si un mort détesté tente d'entrer en communication avec vous, raccrochez. On a le droit de refuser. Si l'important insiste, répétez comme un mantra « Je n'ai rien à vous dire ». Il finira par se lasser. Ce genre de défunt recourt presque toujours à la culpabilité en guise de levier. Ne tombez pas dans le piège. Vous le détestiez de son vivant, n'imaginez surtout pas que le décès l'ait changé. Cela ne contredit pas une vérité que j'entrevois de mieux en mieux. Certains individus sont faits pour être morts. Nul cynisme dans ce propos. Mon père était un vivant excellent et pourtant, quelle mort accomplie. J'admire le talent avec lequel il m'a parlé. Sans se démentir, sans changer de ton, combien il est passé du small talk à la profondeur. Plus encore que par son désir de légende, c'est ainsi que j'interprète le dialogue post-mortem avec mon père. Vivant, une pudeur extrême l'avait empêché de déclarer ses sentiments. Il se réfugiait derrière des pirouettes pour rester dans la légèreté. Certes, nous sentions qu'il nous aimait. Nous aurions aimé qu'il le dise.